un freelance à qui tu vas dire hey, moi j'ai du boulot pour toi pour les 6 prochaines années parce que j'ai une supervision, voilà où on va, et qu'on nourrit la relation, qu'on nourrit le plaisir de travailler ensemble, en fait, les freelances, ils vont être hyper contents d'être là.
Je vois des fois le freelance associé à prestataire comme un vulgaire mouchoir en papier qu'on va acheter une fois qu'on l'a utilisé. Je déteste la métaphore, mais pour moi, c'est vraiment collaborateur.
Ce qui fait la différence, à mon sens, c'est d'aimer ces freelances. C'est vraiment une histoire d'amour déjà à la base, et de leur donner toutes les raisons de nous aimer aussi, et d'aimer notre business en particulier.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti! J'aimerais commencer cet épisode avec une petite anecdote. Ma femme, Lauriane, elle travaille dans le milieu hospitalier et elle manage avec ses cadres, elle a des cadres qui l'accompagnent, un peu plus de 150 personnes. C'est beaucoup plus de personnes que nous, on a l'habitude de voir dans nos programmes. Puis le soir, voilà, on se raconte les journées. Puis un sujet qui revient très souvent sur la table, et ça va, je l'espère, cadrer cet épisode, c'est que tous les dysfonctionnements opérationnels qu'elle peut observer, notamment à l'hôpital, est lié surtout, on va dire, au manque d'engagement des équipes. Quand on parle, j'hallucine l'absentéisme qu'il peut y avoir. Alors, je sais que c'est pas forcément le cas dans d'autres hôpitaux en dehors de Paris, mais à Paris, c'est assez prégnant dans tous les hôpitaux, les prises de bec, etc., qu'il peut y avoir entre les collaborateurs. Et en fait, la conclusion de nos discussions à chaque fois, elle est simple sur le papier, mais elle est loin d'être évidente dans les faits. C'est que dans le milieu hospitalier, il y a énormément de process, il y a énormément de systèmes, c'est nécessaire. Mais en fait, ce sont les équipes en place qui font tourner les systèmes, les process, qui s'assurent que ça fonctionne bien. Et c'est vraiment là que toute la différence se fait. Moi, j'aimerais un peu de parler avec vous. Alors, je ne sais pas si le parallèle va être évident, mais c'est de parler d'engagement des équipes, parce que aussi dans ce domaine, cette industrie infoprenariale, on travaille notamment pas mal avec des freelances qui, de par nature, vont peut-être être moins engagés qu'une équipe de salariés, par diverses raisons. Peut-être le simple fait d'être freelance, d'être à son compte, en est une. Le fait d'avoir plusieurs clients, dispersion de focus, en est une autre. Pourtant, moi, je vois vraiment que chez nos membres qui ont des équipes de freelance, et nous, je pense qu'on est vraiment pas mal chez Squared, enfin, vous allez me dire, parce que vous êtes freelance chez Squared, je vois que quand les équipes sont méga engagées, du coup, produisent énormément de valeur pour l'entreprise, il y a un véritable esprit d'équipe. Donc voilà, j'aimerais que on discute de ça, c'est comment on peut créer un esprit d'équipe, le fameux esprit d'équipe, quand on travaille essentiellement avec des freelances. Donc ça m'intéresse à la fois d'avoir vos perspectives en tant que freelance chez Square, et puis aussi ce que vous pouvez voir chez nos membres. Allez, je te laisse la balle, Thierry.
Ouais, en fait, je bouillonne parce que en t'écoutant sur peut-être que par nature, les freelances sont un peu moins engagés que les salariés. En fait, je regarde peut-être un peu cynique sur cette histoire-là, mais je pense qu'en fait, les freelances sont probablement beaucoup plus engagés que des salariés. En tout cas, moi, j'ai vu beaucoup
J'ai
de
pensé
salariés.
exactement la même chose.
J'ai quand même plusieurs expériences de salariat à regarder autour de moi et me dire, waouh, en fait, il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi ils sont là, si ce n'est avoir une fiche de paye, en fait, être là par habitude. Donc, en termes d'engagement dans l'entreprise, dans la mission, dans la vision, en fait, moi, je pense que les freelances peuvent être beaucoup plus engagés que des salariés. Après, ce qui fait la différence, à mon sens, déjà le point de départ, c'est en tant qu'entrepreneur, c'est d'aimer ces freelances. C'est vraiment une histoire d'amour déjà à la base, et de leur donner toutes les raisons de nous aimer aussi et d'aimer notre business en particulier. Mais c'est vraiment là, c'est le nerf de la guerre pour moi, c'est une histoire d'amour. Et qu'est-ce que ça veut dire, bah, ou comment est-ce que ça se passe? C'est prendre soin d'eux, en fait. C'est juste de temps en temps dire, hey, comment ça va? Est-ce que tu as tout ce dont tu as besoin pour travailler? Comment est-ce que je peux t'aider? Ça nourrit la relation. On en a parlé d'ailleurs sur l'épisode précédent, de prendre soin de la relation. Pour moi, c'est vraiment la même chose. Et puis, en fait, Moi, j'ai un ancien formateur et mentor qui, une fois, avait dit un truc qui m'avait vachement marqué. Il disait, le monde du freelancing, c'est un monde de chiens. C'est la jungle. Et j'avais écouté ça et je me disais, tu sais, ça m'a un peu percuté. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. Parce que globalement, dans le monde du freelancing, eh ben, en fait, y en a beaucoup qui n'ont pas de mission ou peu de mission, ou alors sont des missions courtes et qui, du coup, se retrouvent dans le sujet de devoir retrouver des nouveaux clients régulièrement, voilà, des nouvelles missions. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, si on a envie de s'entourer d'une équipe sur le long terme, et ça, on en a parlé d'ailleurs sur un épisode précédent, qu'en fait, si on onboard des nouveaux freelances régulièrement, ben en fait, on perd une énergie, un temps et de l'argent, en fait. Donc, on a tout intérêt à garder ces freelances sur la durée. Et en fait, c'est vraiment une histoire de leur donner de la vision, en fait, leur donner pas de la vision, mais de la perspective. C'est-à-dire qu'un freelance à qui tu vas dire, hey, moi, j'ai du boulot pour toi pour les 6 prochaines années parce que j'ai une supervision, voilà où on va. Et alors, bah, on y va par étapes, tu vois, c'est petit projet, toc, et qu'on nourrit la relation, qu'on nourrit le plaisir de travailler ensemble. En fait, les freelances, ils vont être hyper contents d'être là. Ils vont être hyper engagés, beaucoup plus qu'un salarié qui est confort chez lui et qui n'a pas besoin de trop se bouger. Parce qu'en fait, en plus, en France, on a le fameux CDI qui est juste une horreur pour les entrepreneurs, quoi.
Je peux faire... J'ai mis une astérix parce que l'engagement des freelances, oui, les freelances sont engagés. Je pense que c'est comment, justement, leur donner les raisons de rester engagés. Tu vois, c'est vraiment ça, ce truc. Mais finalement, que ce soit un freelance ou un salarié, je pense que ce que tu as partagé, c'est clé, quoi.
Ouais. Ouais, carrément. Enfin, moi, j'ai eu la même réaction que Thierry de « What ?» Mais non. Parce que justement, quand on est freelance, on est aussi des entrepreneurs en réalité. Parce que bah, justement, il faut qu'on aille chercher des clients, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on... Et je trouve que justement, on comprend beaucoup plus les challenges de l'entrepreneur avec qui on travaille. Donc, on a beaucoup plus d'empathie, de compréhension qu'un salarié qui va être plus là en mode « Ok, mais c'est normal que tu me payes parce que je fais mes heures. » Et ce n'est pas du tout le même rapport au travail, justement, qu'on va avoir. Et donc, quand on est freelance, pour moi, le mot qui est important, c'est « free », c'est que la personne veut être libre, en fait. C'est pour ça qu'on devient freelance, en général, c'est pour notre liberté. Donc, à partir du moment où on rentre dans une entreprise et qu'on ne se sent pas libre, ou qu'on se sent qu'on ne fait pas partie non plus du projet, qu'on est là juste pour une mission, c'est ça en fait qui va faire le désengagement du freelance, c'est qu'il ne se sent pas ni engagé et en même temps il ne se sent pas libre. Donc pour moi il y a ce double challenge là qui est important de comprendre. Donc c'est-à-dire que quand tu donnes une mission, déjà tu demandes avant de l'imposer, parce que moi je vois souvent en fait ce truc là chez les entrepreneurs qui vont avoir tendance à prendre le freelance pour son salarié justement. Et qui va lui imposer, bon, bah alors du coup, tu fais ça, mais attends, c'est toi le client, en fait. Donc non, tu ne me dis pas ce que je vais faire. on va discuter ensemble de comment on va mener la mission. Et d'abord, je vais décider si oui ou non, je suis d'accord pour la mission. Et ça, c'est un truc parfois qui est un peu, tu vois, qui est un peu déréglé. Donc pour moi, ça, c'est vraiment la première chose, c'est faire sentir à ton freelance qu'il est complètement libre et en même temps, de lui donner envie de participer justement à tes projets, etc. Parce que justement, si tu lui dis, bah écoute, tu vas faire cette mission et puis c'est tout, c'est pas la même chose que, bah écoute, cette mission, elle va participer à tel projet, du coup, bah t'es engagé dans le projet en fait. Et toujours la question de la mission et la vision de l'entreprise qui fait que, bah moi, quand je participe dans une entreprise, je cherche pas juste à gagner de l'argent en fait, je cherche à contribuer au projet de l'autre en fait. C'est ça qui m'anime, moi en tout cas. Donc, si tu ne me fais pas sentir que je contribue à ton projet, bah, en fait, je sors, tu vois. Donc, je pense que c'est... Enfin, pour moi, c'est vraiment ces trucs-là qui sont vraiment, vraiment importants chez les freelances.
Là, si on peut creuser, Mélanie, et peut-être aussi Thierry, cet aspect liberté, quel comportement une entreprise ou un entrepreneur avec ses freelances pourrait avoir dans lequel un freelance ne se sent plus libre alors, tu l'as mentionné, hein, imposer plutôt que proposer. Mais il y a certainement d'autres choses. Peut-être que vous avez pu vivre... ça fait... en termes de liberté.
Ouais, moi, ça a été qu'on a commencé à me donner... justement, en fait, sans me demander, je me suis retrouvée à devoir faire des choses récurrentes, en fait. Parce qu'à la limite, pour aider l'entreprise sur un temps donné et qu'on me dise, OK, est-ce que tu peux faire ça ? Ouais, OK, j'y vais. Mais par contre, que ça devienne récurrent... Alors que moi, à la base, c'était pas ce que je voulais. Ça, c'est le truc à chaque fois, moi, qui m'a posé problème, où je me suis dit, mais là, je suis plus libre, en fait. On m'a finalement, c'est comme si on m'avait imposé sans que je m'en rende compte un truc, tu vois.
C'est comme si le cadre de la mission a un peu changé, ça a débordé. Mais finalement, c'est ce débordement est devenu un peu plus...
Parce que tu sais, on te demande de faire un effort, donc tu fais l'effort. Mais en fait, après, on considère que l'effort est devenu... C'est normal, en fait, tu vois. Et c'est ce truc-là qui fait que... Non, là, j'ai fait un effort et après, on redevient à la normale. Ou alors, tu me demandes si j'ai envie de continuer dans ce truc-là, tu vois. Donc, voilà, moi c'est peut-être ça qui m'a gêné parfois en tant que freelance.
Ouais, moi, c'est... Ouais, j'avais envie de dire, c'est en fait important de garder la notion de plaisir. Et ça va avec ce que tu dis, Mélanie. En fait, c'est quand il y a quelque chose qui devient récurrent, bon, ou pas, mais en tout cas qui s'immisce de manière insidieuse et dans lequel le freelance, en fait, ça le fait pas kiffer de faire ça, et bah, ça va s'éteindre tranquillement. Et pour revenir sur la notion de liberté, en fait, en vous écoutant tout à l'heure, je me disais, c'est un peu comme le mariage, en fait. Quand on est marié, parfois, alors c'est un gros préjugé que je fais, mais c'est comme si on, et ça c'est le CDI, mais on peut avoir l'impression que finalement le truc est établi, il peut plus rien nous arriver, et au risque qu'on soit plus dans un mode de séduction réciproque entre guillemets permanent, en tout cas récurrent. Et moi, c'est ce que j'apprécie en fait dans le mode freelance, c'est-à-dire que quelque part, ce qui me drive beaucoup, et tu vois, c'est aussi l'occasion de partager l'envers du décor de comment moi je vis les choses, c'est que il y a un endroit en tant que freelance, on est aussi sur un siège éjectable en fait, parce que à tout moment, on peut se dire bah finalement ça va plus le faire, ou pour une raison ou une autre. Et du coup, bah en fait, en permanence, ça m'invite à être le meilleur de moi-même en tant que freelance. Et je vois Mélanie des oui avec la tête.
Ouais, parce que j'étais exactement en train de penser ça. Je me disais, en fait, je ne supporte pas qu'on pense que je suis indispensable. Tu vois, le fait d'être indispensable, c'est comme si j'étais accrochée, en fait, je pouvais plus partir. Parce que c'est horrible de devoir dire non à quelqu'un, etc. Tu vois. Et donc, du coup, moi, quand je suis freelance, j'ai besoin de sentir que je suis dispensable. Et je fais tout en sorte pour. C'est-à-dire que je vais justement créer les process, les choses pour que quelqu'un d'autre puisse le faire à ma place. Parce que si quelqu'un ne peut pas faire les choses à ma place, là, je me sens en fait enfermée et coincée dans la mission, tu vois. Et je trouve que justement, enfin, chez Squared, en tout cas, maintenant, ça fait 4 ans que je bosse chez Squared, et je sens pas, jamais j'ai ressenti ce côté où je devenais indispensable et en fait, tu vois, qui me crispe, en fait, si jamais j'ai ce côté-là. Mais c'est un peu contradictoire.
Non, c'est vrai, mais je crois que... Parce que moi, j'ai l'autre perspective aussi. Et c'est vrai que... On met beaucoup d'efforts aussi à ce qu'il y ait une espèce d'espace de créativité, de liberté. Au maximum, on essaye. Alors là, on parle de dispensable, indispensable. J'ai le sentiment, c'est comme... c'est de la confiance aussi qu'on a ensemble. Si à un moment donné, on est amené à plus travailler ensemble, bah, on sera amené à plus travailler ensemble. Parce que justement, tu disais toutes les raisons de nous aimer, Thierry. Bah c'est ça aussi, hein, d'offrir cet espace de liberté. Mmh. Je pense que c'est une marque de confiance, une marque de respect, une marque d'amour, une marque de tout ce que tu veux. Mmh. Mais c'est vrai que je n'avais pas conceptualisé ça. Tout à l'heure, Mélanie, tu partageais le fait de proposer plutôt que disposer. Je peux essayer peut-être de vous partager ma philosophie, parce qu'en vous posant la question, j'ai un peu aussi réfléchi au sujet avec ma casquette de visionnaire. Mais c'est vrai que au mieux que l'on peut, je dis on parce que c'est aussi l'équipe, de considérer les freelances comme des membres de l'équipe à part entière. Et je sais que je vois des fois le freelance associé à prestataire, oui. Prestataire comme un vulgaire mouchoir en papier qu'on va acheter une fois qu'on l'a utilisé. Je déteste la métaphore, mais pour moi c'est vraiment collaborateur, c'est quelqu'un dans l'équipe, alors certes qu'il ne pourra pas donner le maximum de son temps, de ses ressources, parce qu'il est freelance, il est libre, il a plusieurs clients, mais du coup, c'est aussi d'essayer de proposer les mêmes choses, donc proposer par exemple les réunions trimestrielles où vous êtes conviés. Il n'y a rien en ça d'obligatoire, mais je sais que dans ces réunions-là, c'est là où on crée du lien, c'est là où on reconnecte à la vision, et donc je suis ravi de nous entendre dire que la vision à long terme, de pouvoir projeter les freelances sur qu'est-ce qui va se passer, comment on souhaite vous avoir avec nous dans cette aventure. Encore une fois, on propose et vous disposez. C'est vrai que là, on a notre retraite d'équipe bientôt. Tout le monde est invité à venir. Et puis, Tout le monde est au taquet, tout le monde change les emplois du temps, mais je sais qu'on va passer une superbe retraite ensemble. Il y a aussi cet aspect, je sais que Mélanie, on en a parlé dans un précédent podcast, le côté, toutes les semaines, on essaie de vous donner de l'actu de la boîte. Au-delà de la vision, à 3 ans, les projets trimestriels, c'est chaque semaine. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'actu, machin? C'est ce genre de choses. En tout cas, je ne sais pas si ça aide, vous pouvez me le dire, mais en tout cas, c'est la façon dont on essaie.
Enfin, moi, c'est vraiment ça qui fait que j'adore bosser chez Squared. C'est parce que, justement, je suis coach, mais en fait, je sais tout ce qui se passe dans la boîte et je sens, en fait, que le fait d'être coach juste en mode freelance, justement, je contribue à la mission de Squared. Et donc, le fait de se rendre compte de ça, c'est hyper important. Mais ça, tu me le dis au départ, on va dire, ok, très bien. Mais si tu me le rappelles pas régulièrement, il y a un moment donné où j'ai l'impression qu'en fait, je suis juste une coach qui sert à servir tes clients à ta place, tu vois, si jamais tu fais pas ce lien-là. Alors que justement, en faisant ce lien, par exemple, tous les petits looms du lundi que Romuald nous fait pour nous tenir au courant en fait, des actus de l'entreprise, ça dure une dizaine de minutes où il nous dit juste voilà ce qui se passe cette semaine, voilà ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais en mode vraiment, on suit en fait les projets de l'entreprise et du coup, on sent qu'on participe à ces projets. Tu sais, c'est comme, je ne sais plus, l'image, tu sais, où tu as... Le gars qui pose une pierre et qui dit qu'il y a quelqu'un qui lui demande et il dit je pose une pierre. Il y en a un autre qui va dire je construis un mur et puis il y en a un autre qui va dire je construis une cathédrale. En fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'en posant ta petite pierre, en fait, tu construis la cathédrale, tu poses pas juste une pierre. Et je pense que c'est vraiment arriver à faire sortir ça à tes freelances, ça change tout en fait. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens chez Squared, c'est les petits looms du lundi qui nous permettent de savoir, de connecter avec l'équipe. Les quarterly meetings tous les 3 mois pour vraiment faire le point de tous les projets, même si moi j'ai participé qu'à une petite partie, en fait je fais partie de ce grand tout et tout en étant libre. Donc c'est cette double vision qui est hyper importante et qui fait que ton équipe va rester soudée si elle sait à quoi elle participe en fait.
J'ai envie de contribuer à la conversation sur un point. Là, je fais une petite casquette, je mets une casquette un peu de gestionnaire de tout ça. Parce que quand on est entrepreneur et qu'on a des freelances et qu'on se dit, je les paye à passer, une heure, 2 heures de réunion avec nous pour leur raconter l'actualité de la boîte, la vision et tout. On peut se dire, ça me fait des frais de structure qui sont importants. Mais il faut vraiment voir ça comme un investissement. Alors, je pense que tout ce qu'on partage depuis tout à l'heure le met en évidence. C'est hyper important de voir ça comme ça en fait, parce que sinon en fait la cohésion d'équipe ne peut pas se faire.
Investir dans la relation, investir dans le lien. C'est pas palpable, tu vois, c'est pas pour reprendre un précédent épisode, c'est pas un KPI où on va mettre un chiffre derrière. C'est comme si c'est juste le terreau fertile sur lequel peut se construire la relation.
Ouais, carrément. Et du coup, en fait, ce qui est hyper important, c'est vraiment de prendre soin de l'énergie au sein de l'équipe. Et donc, ça veut dire de mettre du fun, ça veut dire de valoriser les actions des uns et des autres. Ça, on le fait très bien chez Squared. On a un canal Slack qui est dédié à ça, avec toutes les semaines. Alors, il y a quelques exceptions, certaines semaines, tout le monde ne le fait pas, mais où on se félicite réciproquement, en fait, sur... Tiens, cette semaine, un tel m'a aidé sur tel projet, ou alors il a fait ça et j'ai trouvé ça hyper cool et tout. Et donc, juste de se féliciter en public comme ça, de reconnaître ça, je trouve que ça apporte une énergie complètement incroyable.
Ouais, c'est super riche parce que ça permet aussi de voir justement ce qui. Enfin, moi, c'est vraiment le fait de voir aussi ce que toutes les personnes ont apporté en fait à chacun. C'est comme une toile qui se tisse et qu'on peut voir en fait grâce à ça. Et donc parfois en fait on n'a même pas conscience que le petit truc qu'on fait va soulager énormément l'autre personne derrière, et de pouvoir se l'exprimer régulièrement, ça crée encore plus ce lien et cette complicité entre nous aussi. On est beaucoup dans l'entraide, même dans l'équipe, on n'est pas du tout en concurrence. Par exemple, les coachs, on est des frères et sœurs, quoi. On n'est pas du tout en concurrence les uns des autres. Ouais. Mais vraiment, on est tout le temps en train de s'entraider. Dès qu'on a une question, on va demander à l'autre. On sait que ça va être bien reçu, que ça va être bien. Et du coup, je trouve que tout ça, en fait, c'est tous ces petits points-là, le petit loom du lundi, le petit quarterly, le petit same page, le petit moment où on se fait un petit message. C'est tous ces éléments-là qui font qu'on est aussi soudés dans l'équipe.
Ça me fait penser, quand j'ai rejoint l'équipe, parce que j'ai rejoint après Mélanie, qui est une dinosaure chez Squared.
Non, un pilier, un pilier.
Un pilier, ouais, c'est plus joli dit comme ça.
Merci.
Mais quand je suis arrivé, elle m'a envoyé un petit message Slack en me disant hey, « ça me fait super plaisir de t'accueillir dans l'équipe, si tu as des questions, je me tiens à ta dispo et tout ». Waouh, moi ça a été c'était génial en fait de recevoir ça. Je me suis senti accueilli tout de suite, alors par Mélanie et par d'autres membres de l'équipe. Et je révèle un petit secret d'ailleurs, si tu m'y autorises, Mélanie. Mais assez régulièrement, on s'envoie des petits messages. On dit, tu sais, en fait, moi, je kiffe bosser avec toi.
Ouais, ouais, c'est vrai.
J'adore bosser avec toi. J'ai une chance incroyable. Et c'est réciproque, c'est assez rigolo.
Et c'est le moment où je vous laisse, ouais. C'est ça. C'est le moment où je quitte le podcast et je vous laisse tous les deux, c'est ça.
Alors en fait, je parlais.
Non, mais c'est vrai, c'est tellement important en fait de créer aussi du lien entre les membres de l'équipe. Et même toi, Romain, régulièrement, tu nous envoies des petits messages de hey, au fait, t'as fait ce petit truc, mais en fait, c'était trop génial, merci beaucoup. Et en fait, ça fait tellement de bien quand t'es juste freelance, justement, que t'as d'autres missions, etc. Et que tu sens vraiment que t'as changé quelque chose pour la personne qui bosse avec toi. Ben c'est ça, en fait, qui fait que tu as envie de continuer à rester dans cette entreprise et dans cette relation aussi, parce que c'est de la relation.
Ça nourrit le besoin de reconnaissance dont on parlait sur un épisode précédent.
Ouais, alors tu vois, c'est là, plus on en discute, plus je me reprojette dans ce que tu partageais sur Jacques Salomé, justement, dans une relation de couple, de pouvoir dire les choses, s'exprimer, être entendu, etc. C'est vrai qu'en tant que CEO, je mets du focus là-dessus et je pense que c'est vraiment le côté relation de couple qui m'a, même si effectivement avec ces freelances on n'est pas en couple, hein, les gens qui nous écoutent sont en train de se dire ils se font des massages, des câlins, des trucs. Voilà. Mais il y a des choses, je vais vous partager trois éléments sur lesquels peut-être vous allez, je sais que c'est des axes d'amélioration parce que on n'a pas toujours été parfait, c'est effectivement dans la valorisation du travail. Moi je reflète beaucoup sur un auteur américain qui s'appelle John Gottman et qui partage une chose, et qui dit dans un couple, un message négatif auprès de son partenaire, il faut 5 messages positifs pour contrebalancer. Et c'est vrai qu'en sachant ça, je vais naturellement exprimer quelque chose quand je le ressens. Et je ne me force pas, c'est genre à l'intuition. Mais des fois, on a l'intuition d'un travail bien fait, quelque chose qui a été fait, qui n'était pas prévu. Je sais que je mets effectivement de l'emphase dessus parce que je sais l'impact que ça peut avoir, cet aspect valoriser le travail. Il y a aussi un deuxième truc qu'on essaie de faire, va me dire si on y arrive ou on peut encore s'améliorer, c'est de réduire votre admin au minimum pour que vous soyez le maximum dans votre zone de génie, parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est ça qui contribue sur le long terme à travailler ensemble. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous percevez avec Squared ou avec vos clients, d'autres clients?
Ouais, carrément, en fait ça c'est hyper important aussi, je trouve, c'est de faire attention au temps, on va dire, qui est en dehors de l'expertise du freelance. Parce que justement, tout ce temps-là, c'est un peu du temps gris pour le freelance, où si un autre client lui dit, bah écoute, coach pendant ce temps-là, bah clairement, tu préfères coacher parce que c'est ta zone de génie et en général, voilà, t'es plus payé en plus. Donc, il faut faire très attention à réduire au maximum ce temps-là et faire que tout soit fluide, en fait, au maximum, qu'il n'y ait pas... Et de savoir écouter aussi quand la personne dit, bah là, en fait, il y a un truc qui ne va pas, c'est trop lourd pour moi. De ne pas dire « oui, bah, c'est comme ça et puis c'est tout », tu vois. De pouvoir entendre le freelance dire ça et de pouvoir se dire « ok, comment est-ce qu'on peut améliorer ?» Ça ne veut pas dire non plus juste venir et se plaindre, mais de pouvoir lui demander en fait comment lui, il ferait. Parce que parfois, il y a des choses qui peuvent être simples sans qu'on s'en rende compte en fait, parce qu'on n'est pas en train de vivre ce que lui vit. Donc, d'être vraiment aussi à l'écoute. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très, très important aussi chez Squared. Je trouve que vous arrivez beaucoup à vous remettre en question tout le temps dans l'équipe. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas, déjà vous le dites, enfin, on est très dans la vérité, on n'est pas que bisounours non plus à tout le temps se dire que tout va bien.
Ah, c'est clair.
Quand ça ne va pas, on sait se le dire aussi, et avec bienveillance, mais on se le dit. Et on sait aussi se remettre en question, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire bah, justement bah, c'est comme ça et c'est tout, et si tu n'es pas content, bah, tu n'as qu'à aller voir quelqu'un d'autre. C'est vraiment, ok, comment est-ce que je peux faire pour que tu te sentes bien, tu te sentes mieux, comment voilà, faire en sorte que tu sois entendu, c'est ce qu'on disait aussi. Voilà, entendre la personne vraiment, quoi.
Ouais.
Moi, pour abonder dans ce sens-là, un petit fun fact, en fait, c'est que moi, je pense que ce que j'ai le plus kiffé quand j'ai rejoint Squared, c'est la structure. Parce qu'en fait, toute la structure des process internes à laquelle, auquel j'ai été briefé dans mon onboarding. Alors, l'onboarding chez Square, c'est un truc de dingue. En fait, tu as des tâches Asana qui disent « regarde ça, 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 ça ». En fait, tu apprends toutes les best practices avant de démarrer. Ça te guide sur mettre en place tel et tel outil pour, avec des hacks de productivité, etc. Et en fait, toute cette structure-là qui peut faire peur certains, et je sais que j'ai discuté avec d'autres membres de l'équipe dont je tairai le nom, mais qui m'ont dit « oulala, en fait, quand j'ai démarré, je me suis dit que ça allait être un peu chiant et lourd, et en fait, je surkiffe ». Et pourquoi est-ce qu'en fait, tout le monde surkiffe ? C'est parce que ça nous permet d'être ultra efficace. On ne perd pas du temps, sur, encore une fois, sur des tâches administratives ou sur des trucs où on passe plein de, on n'a pas le sujet en fait de s'envoyer plein de messages Slack ou autre sur un sur un truc sur lequel on n'a pas nos réponses et tout. En fait, on a tout de suite ce dont on a besoin pour travailler. On est hyper efficace et on avance quand même.
J'aimerais vous poser une question. Donc là, c'est sans filet parce que c'est quelque chose que je pense que tous nos membres ont. On sait que le feedback des freelances est hyper important. Je sais aussi que nous, quand on l'a moins pris, on sent un désengagement, on sent... voilà. Donc je sais que c'est un gros focus. Par contre, et je vous partage ça, et j'ai envie d'avoir votre avis, encore une fois, c'est sans filet. Quand je reçois, ou on reçoit les feedbacks, vos feedbacks, etc., et qu'on n'est pas en mesure de pouvoir le mettre en place, par manque de ressources en interne, comment vous percevez ça quand vous avez un feedback qui est fait, qui n'a pas été pris en compte, etc., qu'est-ce qui se passe un petit peu ? Parce que l'idée, c'est que je sais qu'il y a énormément de valeur là-dessus. Il y a un mode vulnérabilité. Parfois, on n'a pas la bande passante pour le faire ou ce n'est pas dans la roadmap, etc.
Pour moi, c'est vraiment le fait de dire à la personne « Écoute, on n'a pas les ressources pour le faire maintenant, mais on l'a pris en compte. » En fait, rien que de dire ça, ça permet de dire « Ok, ils m'ont entendu. » En fait. Alors que si tu ne réponds pas en fait, à ce truc-là, du coup, tu as l'impression qu'à chaque fois que tu lances des bouées, en fait, c'est comme des bouteilles à la mer, mais personne ne les attrape. Et ça, c'est le truc qui est inconfortable. Mais simplement dire à la personne, écoute, merci, c'est hyper intéressant, mais par contre, là, on n'est pas en capacité de le mettre maintenant, ça change tout.
Ouais, en fait, moi, je n'ai même pas eu le sentiment d'avoir vécu ça depuis que j'ai rejoint l'équipe. ce qui est très différent de l'expérience que j'ai pu avoir en tant que salarié dans des grands groupes. Je reparle de ça, j'en avais parlé déjà précédemment, mais dans mes expériences précédentes, j'avais un peu il y a un peu comme une fatalité qui est là, qui est, en fait, c'est tellement gros, tellement lourd, qu'on va jamais réussir à faire changer les choses. Alors que là, pas du tout. Ce qui fait que même quand on fait des lettres au Père Noël, et je me souviens très bien d'ailleurs en fin d'année dernière qu'il y a eu une grande campagne de « Hey, faites-nous des feedbacks sur l'année, ce que vous avez aimé, moins bien aimé, tout ça », ce qui était hyper courageux de lancer ça. J'ai pas du tout l'impression que dans ma liste au Père Noël il y a des trucs qui sont passés à la trappe en fait, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été mises en œuvre. Peut-être pas, c'est peut-être pas 100%, mais en fait il y a pas de souci quoi. Et derrière ça, et je rejoins sur un sujet qu'on a évoqué juste avant, en fait le fait qu'on soit quand même une bonne partie de l'équipe en freelance, qu'on a tous une nature d'entrepreneur, on a tous d'ailleurs je pense plus ou moins eu des expériences d'être plus en lead sur la création d'un programme ou autre, et on a changé un peu notre manière de procéder pour aller vers quelque chose qui nous correspond davantage. En fait, c'est qu'on comprend les enjeux d'un entrepreneur et d'une entreprise qui a des budgets, qui a des moyens, qui a des ressources, qui a du temps ou pas. Donc, ça passe crème.
Ouais, mais il y a juste peut-être un autre petit truc que je rajouterais, c'est que c'est aussi apprendre à ton freelance à communiquer avec toi. C'est-à-dire que, justement, si tu lui demandes un feedback en lui disant « Ok, qu'est-ce qui ne va pas ?», il va te dire, en fait, ce qui ne va pas, clairement, tu vois. Donc, tu vas avoir l'impression qu'il te critique tout. Mais en fait, c'est, et ça, tu le fais très bien aussi, Romain, c'est de dire « Ok, je veux bien que tu me dises ce qui ne va pas, mais par contre, tu me dis aussi la solution, en fait. Quelle serait la solution ?» Et du coup, tu n'es pas du tout dans la même dynamique quand tu fais ton feedback. C'est-à-dire que tu vas faire ton feedback en disant « ça ne va pas, mais par contre, on pourrait faire comme ci, comme ça. » Et ça change tout, en fait, aussi, de l'envoyer, parce qu'on n'est pas que dans la négative en train de chercher des trucs négatifs, on est aussi en train de chercher de la solution, donc on est beaucoup plus positif quand on fait le feedback. Et toi, à le recevoir, j'imagine que c'est beaucoup plus agréable aussi, plutôt que de recevoir que des plaintes de tout ce qui va pas.
Ouais, mais complètement. C'est pour ça que, d'ailleurs, les boucles de feedback qu'on fait, même de manière globale, c'est qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et si on devait recommencer de zéro, qu'est-ce qu'on ferait différemment. C'est toujours... Ouais, ça met plus en énergie. Parce que, et c'est vrai, et moi j'ai pris l'habitude quand je reçois vos feedbacks globalement. Hein, déjà, juste, j'ai de la gratitude en me disant waouh, la personne a pris ce temps. Genre, il y a peut-être 30 lignes. Je fais waouh, parce que ça, c'est pas dans la mission. Enfin, ça peut être compté en admin, etc. Mais ça veut dire que la personne est investie. Donc, même si c'est que des trucs qui ne vont pas, maintenant j'ai appris à me dire ok, bon, ça, c'est que des cadeaux. Bon, c'est à moi de les transformer maintenant, mais.
Il y a quelques années, moi, j'avais suivi une formation de management. J'ai retenu un truc qui m'avait vraiment fait marrer. En fait, la formatrice, elle disait, mettez sur la porte de votre bureau une petite pancarte sur laquelle c'est écrit « Qu'est-ce que tu proposes ?» Voilà. Sa formation de management, c'était « Apprenez à dire à vos collaborateurs « Qu'est-ce que tu proposes ?»
Ouais. Génial.
C'est énorme.
Ok. Je vais mettre ça sur ma miniature, miniature Slack. Qu'est-ce que tu proposes?
Mais tu le fais bien, je t'ai vu le faire plein de fois. Justement, ça m'a fait sourire. Je sais pas si tu connaissais cette technique-là, mais tu le fais super bien.
Ouais, complètement. Eh bien, je pense qu'on a fait un super tour sur ce grand sujet de l'esprit d'équipe à travers les freelances. J'ai beaucoup apprécié, Mélanie, Thierry, à la fois vos conseils et puis votre perspective chez Squared. Petite annonce avant de terminer cet épisode et qui annonce d'ailleurs, je tiens à le dire, c'est notre avant-dernier épisode ensemble. On a le prochain qui sort très bientôt, donc profitez de Mélanie et Thierry. Quant à nous, avec les membres du Mastermind 67, on se réunit dans 15 jours déjà du côté d'Aubernais, dans l'est de la France. J'ai hâte, surtout que, paraît-il, on sera dans l'hôtel où se trouve le plus grand spa d'Europe. Donc, toujours un bon moment pour allier le travail et le plaisir. Et comme à chaque rencontre, on va discuter, comme dans ce podcast, d'équipe, on va discuter de recrutement, d'onboarding, d'offboarding aussi. Mais voilà, si vous sentez qu'il est grand temps pour vous d'adresser sérieusement ce sujet, de créer un esprit d'équipe avec vos salariés, avec vos freelances, on se tient à votre disposition sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn. Envoyez-nous simplement un message en nous partageant ce qui se joue pour vous en ce moment. Et puis, on sera toujours dispo pour tâcher de vous aider au mieux dans nos réponses et pourquoi pas vous accueillir au sein du Mastermind 67, par exemple. Allez, dernier épisode dans quelques jours. Mélanie, Thierry, on se retrouve très vite.